Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quand on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour ne plus croire en rien, mais pour croire en n'importe quoi, disait Chesterton. Et le grand auteur anglais ajoutait que le recul de la vraie foi entraînait nécessairement la multiplication des idoles. Parmi les idoles du monde moderne, il en est une dont le culte a peut-être un peu faibli, mais qui reste malgré tout très populaire, c'est la déesse conscience. Conscience, conscience, instinct divin, s'écriait un philosophe du XVIIIe siècle. Et beaucoup de nos contemporains sont persuadés qu'il suffit de suivre sa conscience pour bien agir. Comme si la conscience individuelle était un juge absolument infaillible et qu'on ne pouvait jamais rien reprocher à un homme qui peut sincèrement déclarer en mettant sa main sur le cœur « J'ai agi selon ma conscience ». Les notions de liberté de conscience, objection de conscience, clause de conscience ont envahi le droit moderne. Et elles sont dans certains cas utiles, même aux catholiques, qui peuvent les invoquer pour être dispensés de collaborer à certains crimes. Mais elles installent solidement dans l'opinion publique l'idée que la conscience humaine serait la norme suprême. Vous voyez sans doute, mes frères, l'intérêt de cette idole moderne. La déesse conscience rassure à bon compte, tout en maintenant une certaine apparence de moralité. On continue à dire qu'il faut faire le bien, car il est toujours plus confortable de se sentir dans le camp du bien. Mais faire le bien selon une norme fluctuante qui s'adapte très facilement aux désirs, aux passions et aux illusions de chacun. Or, d'avance, le grand apôtre avait dénoncé cette illusion dans une sentence célèbre « Ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas justifié pour autant. » Autrement dit, l'homme n'a pas seulement le devoir de suivre sa conscience, en faisant à chaque instant ce que sa raison lui montre être le bien. Cela est nécessaire, mais pas suffisant, car il a déjà auparavant le devoir général de bien éclairer, bien former, bien régler cette conscience. Que diriez-vous, mes frères, à un homme qui s'établirait médecin sans s'y être sérieusement préparé et en ayant bâclé toutes ses études ? Et qui s'en prêterait uniquement à son sentiment personnel et à l'inspiration du moment pour trancher les plus graves questions médicales. Sa sincérité diminuerait-elle sa malfaisance et suffira-t-elle à le justifier si, sans le vouloir, il tue ses patients ? Le bon sens répond immédiatement que la médecine ne s'improvise pas et qu'on ne doit pas l'exercer sans l'avoir suffisamment étudié. Or, il en va de même partout. Pour bien agir, il faut d'abord bien penser, avoir des idées droites. Et vous avez reconnu, mes frères, ce que nous venons de demander à Dieu dans l'oraison de ce dimanche. Largire nobis quasimus domine semper spiritum cogitandi quae recta sunt propitius et agendi. Que votre largesse, Seigneur, daigne nous faire don d'un esprit qui toujours pense droitement pour agir droitement. Spiritum cogitandi quae recta sunt et agendi. L'Église demande à Dieu la grâce de bien penser avant celle de bien agir. Et elle implore pour cela la largesse divine, largire nobis quosumus domine, parce qu'elle est consciente qu'il s'agit bel et bien d'un don que Dieu n'accorde qu'à ceux qui lui demandent comme il faut. Par nous-mêmes, nous sommes incapables non seulement de bien agir, mais même de bien penser. Il nous arrive sans doute parfois de voir droitement ce qui est à faire, mais nous ne pouvons pas le voir toujours, Saint-Père, sans bénéficier d'une largesse spéciale de notre Sauveur. Et l'on peut dire qu'il y a ici, mes frères, trois illusions à dépasser. D'abord, l'illusion selon laquelle les bons sentiments suffiraient à nous montrer ce qui est à faire. Ensuite, l'illusion selon laquelle la raison suffirait à nous montrer ce qui est à faire. Enfin, et cela vous surprendra peut-être, l'illusion selon laquelle la foi suffirait à nous montrer ce qui est à faire. La première illusion, c'est celle des bons sentiments. Beaucoup de gens, aujourd'hui, vivent à ce niveau, à peu près comme des animaux. Heureusement, Dieu qui est bon a donné à l'homme un instinct social qui le pousse plutôt à faire du bien à ses semblables, particulièrement à ceux envers qui il éprouve tout naturellement de l'affection ou au moins de la sympathie. Nous avons tendance à nous affliger des malheurs d'autrui et donc à lui porter de l'aide. Nous éprouvons de la joie à causer de la joie et un certain malaise à causer de la tristesse. Nos sentiments sont donc, dans bien des cas, plutôt incitatifs à aller dans la bonne voie. Mais c'est loin d'être infaillible et c'est loin d'être suffisant, surtout dans une nature blessée par le péché originel. D'abord, c'est loin d'être infaillible, car si les sentiments de gêne, de honte, de remords que nous éprouvons dans certaines circonstances ont été prévus par Dieu pour nous servir de signal d'alarme, il est clair que ce signal d'alarme peut facilement être déréglé. Chez certaines personnes, il se déclenchera de façon intempestive. Elles se croiront obligées de faire des tas de choses qu'en réalité elles ne sont pas obligées de faire, tandis que d'autres y resteront à peu près insensibles. En plus, ce signal d'alarme est en grande partie réglé par le regard et les réactions des autres. Il perd donc beaucoup de son efficacité dans une société qui est déjà déréglée, et encore plus face à des manipulateurs, comme il en existe, voire des agents subversifs, car il faut savoir qu'il existe depuis plusieurs décennies des chercheurs qui étudient scientifiquement les méthodes à employer pour créer des sentiments de malaise ou au contraire des sentiments d'euphorie, afin de mieux manipuler les masses en leur donnant bonne ou mauvaise conscience dans telle ou telle sorte de comportement. Face à ces techniques subversives, il est difficile de résister au seul niveau du sentiment. La raison est nécessaire. Mais même dans une société normale, la raison est nécessaire pour réguler les sentiments qui sont généralement souvent excessifs et qui en plus sont très momentanés. Pour pouvoir s'orienter à long terme, ils ne fournissent aucune aide. Nous avons besoin de la raison. C'est ce que notre Seigneur nous enseigne d'ailleurs dans la parabole que nous venons d'entendre. « Que ferai-je ? » s'exclame l'étendant infidèle renvoyé par son maître. Et pris par la nécessité, il réfléchit et il trouve des moyens ingénieux, malhonnêtes mais ingénieux, pour se tirer d'affaire. Notre Seigneur, bien sûr, n'approuve pas cette malhonnêteté. mais il donne cette ingéniosité en exemple. Voyez, nous dit-il, voyez comme vous êtes habile dès qu'il s'agit de votre intérêt terrestre. Là, vous savez réfléchir sur la fin et sur les moyens. Là, vous savez être prudent. Pourquoi donc ne savez-vous pas l'être quand il s'agit des affaires du ciel ? Cette parabole nous prouve donc que les sentiments ne suffisent pas pour conduire notre vie. Il faut la raison, il faut la prudence. Mais elle montre aussi, du même coup, que la raison ne suffit pas non plus. Car la raison peut servir soit la prudence terrestre, soit la prudence céleste. Et qui nous indiquera notre vraie fin, le vrai but à atteindre, sinon la foi ? D'ailleurs, face à l'Évangile qui donne cet exemple de prudence humaine, la Sainte Église a tenu à mettre dans l'Épître une grande incitation de saint Paul à ne pas vivre selon la chair, mais à vivre en fils de Dieu. Donc, les sentiments doivent être régis par la raison, et la raison elle-même éclairée et dirigée par la foi. Mais est-ce que cela suffit ? À première vue, on pourrait penser que oui, puisque la foi nous donne tous les principes pour bien diriger notre vie. D'abord, les 10 commandements de Dieu, ensuite toute la morale évangélique, et en plus, un modèle parfait en la personne de notre Seigneur. Ne suffit-il pas d'appliquer tout cela à notre vie ? Dans le principe, oui, mais dans le concret, si l'on veut vraiment vivre selon Dieu et savoir toujours comment agir, toujours, saint Père, la foi est indispensable, mais pas suffisante, car il restera toujours à faire l'application au cas particulier. Et dans ces cas particuliers, il y aura très souvent des circonstances qui nous échappent. Je décide de déménager à tel endroit, ou de prendre tel métier, ou d'épouser telle personne, mais je risque fort de mauvaises surprises. Alors, comment faire ? L'Église nous répond à la fois par l'Épître et par l'Évangile, qui fournissent deux aspects complémentaires. L'Évangile nous dit « Soyez prudents, utilisez votre intelligence, réfléchissez. » Mais pour tout ce qui nous échappe, l'Épître nous dit « Laissez-vous agir par l'Esprit de Dieu. » Et nous avons ainsi l'équilibre parfait du chrétien qui se résume en la prudence et la prière. La prudence qui nous fait éviter l'illuminisme. Oui, il faut développer notre raison. Oui, il faut veiller à diriger toute notre vie par l'intelligence, ne pas se laisser aller à ses sentiments. Et cet effort va nous permettre de nous perfectionner. Mais il ne s'agit qu'une perfection humaine et nous sommes appelés à vivre en fils de Dieu. Et c'est ce que nous dit à la fois l'Épître et la collecte, car lorsqu'elle demande à Dieu un esprit de rectitude, elle demande en fait le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui viendra éclairer notre intelligence et seconder notre volonté, particulièrement dans les cas où notre intelligence ne suffit pas à savoir ce qu'il faut faire. Et dans ces cas-là, si nous avons prié comme il faut, le Saint-Esprit soufflera pour nous pousser dans la bonne direction. Cela ne dispense pas de la prudence, mais cela vient la compléter et la parfaire pour ceux qui échappent à notre prudence. Nous voulons obéir à Dieu, mais soit les insuffisances, soit les penchants déréglés de notre nature risquent de nous masquer sa loi ou de nous installer dans l'illusion. Nous devons donc demander que la largesse de Dieu daigne nous communiquer son esprit. Ainsi, nous ne lui opposerons plus nos idées étroites, nos désirs déraisonnables. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu, nous dit l'Épître. Demandons à grandir dans cet esprit, grandir à la fois, dans la prudence et dans la prière, la docilité au Saint-Esprit. Que la Sainte Vierge, dont ça a été le résumé toute la vie, nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.